Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tas de apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.
Et salut à tous, bienvenue dans la 98e émission de l'Instant Sport et on va commencer par présenter l'homme qui n'a pas de cœur, prêt à tout pour marquer un point et prendre seul la troisième place du podium des pronostiqueurs, Aurélien Lacasse, salut.
Salut, bonjour à tous.
C'est vraiment pas beau ce que t'as fait ce week-end.
C'est peut-être pas beau mais du coup je prends le podium, la troisième place, donc la remontada est lancée.
Et t'en es content? Tu en es fier?
Oui, tout à fait.
Bah, tu as raison. Tout à fait. Bravo quand même.
On peut rappeler qu'il avait pronostiqué un 4-0 contre son équipe de cœur.
Il n'y a plus d'amitié dans ces cas-là.
Ah, c'est ouais. Bravo. Là.
Non, mais c'est bien, tu remontes. Julien Gall, on est mal. Salut Julien.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, on est bien.
On est, ouais. On est bien. On reste au même niveau, quoi.
Zéro, ouais. Ouais. Niveau zéro.
Vous êtes avec Fanny, en bonne compagnie.
Ouais,
ouais mais ouais, c'est mal, pas fini, Patrick. Hein, c'est pas fini le championnat. Notre champion au grand cœur, Patrick Biancone, salut, qui est prêt à pronostiquer un match nul pour me soutenir, pour soutenir la paillade.
Bon, je savais que j'avais potentiellement un point de moins, mais bon, notre amitié en aurait souffert certainement. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pronostiqué un super 0-0.
Oui, en plus t'es premier tête, donc ça va, tu peux te permettre. Et du coup, je t'ai suivi sur Marseille, ça m'a pas aidé.
Ouais, ça t'a pas aidé. Ouais. Bon, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous les amis et bonjour au coach Yann Febra.
Voilà, qu'on va présenter après dire bonjour à monsieur Laurent Julien, salut.
Salut, bonjour tout le monde.
Ça va bien?
Ça va.
Bon, ben super alors.
Ouais,
je t'ai préparé un petit truc pour l'intro mais ça va arriver. Un invité aujourd'hui, tu l'as dit Patrick, le coach de l'équipe 1 de l'AFL, Yann Febra, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On va pouvoir évoquer un peu l'AFL, son parcours dans cette nouvelle poule suite à la création de la nouvelle grande région. Mais avant cela, je crois que Laurent a une info basket à nous donner. Laurent.
Eh oui, en effet, notre petit protégé, le meneur français de New York, Frank Ntilikina, a été retenu parmi les 20 joueurs pour faire le Rising Star Challenge. Le Rising Star Challenge, en ouverture du week-end des All-Star Games.
Merci Laurent. Et il le dit bien maintenant.
Ça progresse de semaine en semaine, la prononciation.
Mmh. Ouais, il se trompe plus. Hein.
Parce que c'était écrit aussi.
Ouais, mais j'ai une autre surprise en fin d'émission, tu verras. Alors, l'AFL ne jouait pas ce week-end et a vu son match reporté la semaine d'avant, car Canet était en Coupe de France contre Caen la même semaine. D'ailleurs, il s'en est fallu de peu, Johan, pour ce match. C'était chaud pour Caen. Hein. Canet, grosse équipe. Hein.
Oui, mais Canet qui est sur la lancée de son accession. C'est une équipe qui a gardé son ossature de la saison passée et qui s'est bien renforcée. On n'a pas été surpris de les voir. Déjà, ils avaient précédemment battu facilement une Ligue 2. Je crois que c'était au 8e tour, Ajaccio. C'était net. Et puis, sur ce match contre Caen, donc Caen avait quand même 3 matchs en 7 jours. D'ailleurs, le coach Garand s'est un peu plaint du fait que nous ayons repoussé ce match. C'est sûr qu'ils étaient dans de meilleures conditions. 10 jours pour le préparer. Et puis là, ils auront 10 jours pour préparer le prochain match de championnat. Donc, ils étaient dans des conditions optimales. Stade Saint-Michel à Canet bondé. Et puis voilà, vous connaissez la magie de la coupe. Et puis, ils ont fait du jeu. Ils ont peut-être un petit peu souffert après sur la fin dans les prolongations, mais ils ont eu des balles de but, des balles de 2-0. Après, voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais oui, Canet, grosse équipe, mais ça surprend personne.
Ouais, d'ailleurs, si on enlève les équipes réserves de clubs professionnels, on retrouve l'AFL et Canet en haut du classement. On en parlait en off, ensemble tous les deux, avant l'émission. Toi, tu crois pas trop aux réserves de clubs professionnels pour cette fin de saison?
Bah, si je dis ça, après, les coachs de ces réserves, s'ils m'écoutent, ils vont après se servir de ça. Mais juste une précision, c'est que voilà, ces réserves professionnelles, Toulouse et Montpellier, qui sont des réserves de Ligue 1, se sont appuyés depuis le début de la saison sur sur leur effectif jeune, mais en même temps entourés de certains joueurs cadres. Je pense par exemple des garçons comme Berigo à Montpellier ont fait plusieurs matchs et en ayant marqué. Il y a Rémy également, Pocorni pour ne citer que. C'est un petit peu la même chose à Toulouse où au début il y avait Machache. Il y a des joueurs comme Boudigère qui sont peut-être en instance de prêt. Donc je pense que les réserves pro, ils ont deux problèmes. Un, c'est que leur effectif change beaucoup avec des joueurs pro qui ont été la base de la première partie de saison qui ne seront plus là. Et le deuxième point, c'est que plus on va vers la fin et plus après, vous savez, les jeunes, le football est un sport collectif, mais le plus individuel des sports collectifs. Et les jeunes, ils cherchent aussi leur contrat. Et quand il va arriver le mois d'avril, quand après un jeune, il sait qu'il n'est pas conservé, ben ça, ce qui explique aussi parfois des difficultés d'équipe réserve. Maintenant, intrinsèquement, c'est sûr que Montpellier-Toulouse, c'est du lourd. Nîmes est peut-être moins dans ce cas-là parce que Nîmes a déjà intégré qu'il y a des joueurs dans son effectif qui ont 22, 23, 24 ans qui ne seront pas pros et qui constituent le socle de cette équipe. Et donc, on se dit que pour avoir joué les trois équipes, j'ai trouvé Nîmes plus complet.
Et alors, un petit point de règlement, est-ce que Nîmes est en Ligue 2, mais est-ce que la réserve peut monter en CFA quand il est en Ligue 2?
Oui, ben Nîmes, vous savez que Nîmes, ben mon prédécesseur, M. Macello, est maintenant le directeur du centre, et donc il a bien travaillé, puisqu'ils ont maintenant l'agrément qui fait qu'en cas d'accession, ce qui n'était pas le cas saison dernière, ils ont tout ce qu'il faut. Donc sous la houlette aussi de Bernard Blacard, qui fait beaucoup pour ce club, ils sont en mesure de monter en CFA,
National 2.
Ouais,
National
2. Okay. Laurent.
Oui, juste pour rappeler que coach Fébrère a toute la légitimité pour nous parler de ses équipes réserves pro, puisqu'il était coach d'une réserve pro avant de venir chez nous, à savoir Arles-Avignon. Donc du coup, on veut bien croire ce que tu dis. Moi, tu disais que les autres coachs pouvaient le prendre bizarrement ce que tu dis, mais c'est...
Ça n'empêche pas que ce seront de sacrés clients et que forcément Toulouse en étant toujours premier quand ça va arriver la fin. Mais je pense que Toulouse peut avoir un trou d'air dans ce championnat.
D'ailleurs, ils en ont eu un déjà. Hein.
Oui.
Et Toulouse, c'est comme Nîmes. Si Toulouse descend en Ligue 2, l'équipe réserve peut monter aussi.
Oui, rien à voir.
Oui, aussi parce que Toulouse n'est pas bien l'équipe 1.
Mais c'est vrai que l'analyse du coach, je la partage totalement parce que c'est une précision par rapport à ce qu'il disait. Et si les joueurs ne sont plus là, c'est parce qu'ils sont partis dans d'autres clubs. Ils ont profité de ce mercato hivernal. Bon, ils ont vu qu'ils étaient, ces professionnels, ils étaient complètement barrés. Donc pour jouer en équipe 1, c'est-à-dire en Ligue 1 pour Toulouse et Montpellier. Donc plutôt que de faire encore 6 mois en réserve, c'est-à-dire en N3, eh bien, ils préfèrent partir dans d'autres clubs professionnels. C'est le cas de Rémy, c'est le cas de Berigo, c'est le cas de Pocorni, voilà, qui ont été ou prêtés ou transférés dans d'autres clubs. Je crois que Berigo est allé à Chypre, un truc comme ça. Enfin, bon, bref, Rémy aussi, peut-être en Turquie, enfin, je ne me souviens plus. Mais donc, voilà, donc, ils ne sont plus là parce qu'ils ont été transférés dans d'autres clubs.
Le classement, ça donne quoi, Auré?
Ils ne sont plus là, mais Toulouse n'a pas souffert. Visiblement, ils sont allés gagner 2-0 à l'extérieur à Fabregues.
Vas-y, dis-nous.
Alors, au classement, ça donne donc la réserve de Toulouse, première avec 27 points. Deuxième, la réserve de Nîmes, 24 points, mais avec un match en moins. Troisième, Perpignan-Canet, 23 points, mais avec le match en moins contre la FL. Quatrième, la réserve de Montpellier, 22 points. Cinquième, Mende, 22 points, mais avec un match en moins. Et ensuite, on a Fabregues, 20 points, Balma, 19 et Blagnac, 17.
Comment, par rapport à l'an dernier, comment tu juges cette poule avec toutes ces équipes de la banlieue de Toulouse qu'on ne connaissait pas forcément? Le niveau de ce championnat par rapport à celui de l'an dernier?
Oui, on le trouve très homogène. Disons que l'an passé, sur les 7 premiers du championnat de National, enfin de CFA 2, ça ressemble au championnat actuel, sauf que là, on est 14. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le double d'équipes, je dirais, bonnes et homogènes. Pour titre d'exemple, nous avons joué récemment Luzenac qui est dernier et ça a été un combat acharné. Luzenac, c'est un club qui a failli côtoyer le monde professionnel. Tout le monde le connaît, mais c'est un club qui y a des joueurs sous contrat fédéral, il y a des joueurs qui font que ça et on voit que c'est une équipe qui est en souffrance et c'est le cas. C'est une équipe qui est en souffrance alors qu'elle est dernière et je veux dire on a eu vraiment les pires difficultés à remporter ce match et on aurait très bien pu être battu, ils auraient mené au score, il n'y aurait rien eu à dire et on a battu Toulouse la semaine d'après. Finalement, même si ça a été un beau match, on peut pas dire que c'est plus dur de battre Toulouse que de battre Luzenac. C'est en ce sens que je me dis tous les matchs et ça sera le cas dès ce week-end contre Alès parce que on va recevoir une équipe d'Alès qui va venir ici, on les a jamais battus, c'est une équipe qui va pas forcément se découvrir et on aura peut-être des difficultés qu'on n'a pas eu contre Toulouse et on les aura contre Alès. C'est un championnat très très homogène Et encore une fois, il faut quand même vite, je dirais, atteindre cette barre des 30 points. Donc on a 3 victoires à aller chercher pour être bien et puis pouvoir s'offrir une fin de saison palpitante. Mais tout le monde n'aura pas 30 points. Et c'est vrai que ça risque d'être très, très âpre. Et aujourd'hui, sachant qu'il peut y avoir aussi 4 équipes qui descendent, en fonction de ce qui va se passer en National 2, si des équipes comme Paulan ou 7 sont amenées à descendre.
Tarbes
aussi. Donc 4 descentes s'il y en a dans ce championnat, donc personne n'est sauvé. C'est assez impressionnant.
Donc aujourd'hui, on a le coach qui est en mode Giroud, a priori. Puisque
j'allais poser ma question après sur
on
ça.
On a quand même 22 points avec un match à moins. Si on fait mieux que le Stade Malherbe de Caen, c'est-à-dire une victoire, on est second, quoi. Second ex aequo.
D'abord, j'ai beaucoup de respect pour M. Giroud. Oui. Je vais vous donner une petite anecdote.
Je parle pas du bonnet, hein. Je parlais de...
Non, mais quand j'ai commencé à entraîner et faire ce métier, j'avais 20 ans et un jour, j'ai écrit à ce monsieur et il m'a reçu pendant une semaine. J'ai passé une semaine là-bas. Et j'ai donc beaucoup de respect pour ce monsieur. Dommage qu'il a pas su arrêter au bon moment. Mais vraiment, je salue monsieur Roux par rapport à ça. Après, au niveau, je suis pas en train de vous dire que il faut on joue le maintien. C'est un championnat exigeant, difficile, et on a aucune marge. On est content, on apprécie les victoires, mais je veux pas les banaliser parce que elles sont acquises avec, je dirais, beaucoup de au forceps souvent, et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et il faut être humble. Après. Moi, je suis un compétiteur. On, bien sûr, qu'on a envie d'être le plus haut possible. Et si on est là aujourd'hui, ben c'est que voilà, les joueurs ont fait le maximum, donnent le maximum pour qu'on puisse, je dirais, ben récompenser le travail des dirigeants et être dans les équipes de tête. Mais il y a des équipes qui ont plus de moyens, qui font autant les efforts que nous et qui sont derrière. Donc tout peut arriver. Et je crois qu'il faut être mesuré.
Il est quand ce match contre Canet?
Le 10. Alors avant, il y a quand même un Toulouse-Canet qui voudra aussi le déplacement. Et c'est la semaine prochaine, pendant qu'on nous recevrons. Allez,
ouais, c'est ça.
On attaque la phase retour, en fait.
Ouais. Tu voulais intervenir, Patrick ?
Oui, moi je dis depuis le début de la saison, tout le monde connaît le potentiel de cette équipe de l'AFL. Alors c'est vrai que c'est plus facile pour nous, qui sommes observateurs extérieurs, d'annoncer des objectifs élevés. Bon, ça n'engage que nous. Puis on n'est pas là au quotidien, on ne travaille pas jour après jour, aussi bien pour boucler un budget que pour préparer une équipe et faire des compositions et que les victoires s'enchaînent. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour nous, mais bon, c'est vrai que moi, ça me fait plaisir de retrouver l'AFL à cette position, c'est-à-dire en embuscade dans les 4-5 premiers, avec une perspective, comme la saison dernière, de jouer cette accession jusqu'au bout. Et bon, on parle beaucoup de Canet, mais moi je me souviens du match aller, c'était le premier match de la saison, c'était au chapitre, et bon, il y avait eu un 0-0, bon, il y a eu une première mi-temps où, vous savez, on n'avait pas vu grand-chose, mais il y a eu une deuxième mi-temps où vraiment on avait vu le vrai visage de l'AFL, avec un gardien de Canet qui a fait 3-4 arrêts de notre monde, et sinon on gagnait ce match. Et bon, je me souviens des dirigeants de Canet qui répétaient à longueur de match, avant, pendant et après le match, ouais, mais il nous manque 4 titulaires indiscutables. Bon, ce qui apparaissait vrai à ce moment-là. Mais en tout cas, on avait vu un gros match et c'est vrai, 2 belles équipes. Et donc, après ce match-là, avec une toute humilité, je m'étais dit, c'est 2 équipes qui veulent jouer le haut de tableau. Bon, et je suis content de retrouver ces équipes en tête, et ça annonce palpitant pour la suite.
Canet était venu dans une configuration hyper prudente. D'abord, ils nous craignaient. On était monté quand même l'année d'avant. Et eux, ils avaient aussi cet objectif-là. Donc, ils avaient beaucoup de craintes sur ce match-là. Ils avaient certes 2-3 joueurs absents, mais ils ont fait des résultats sans ces joueurs aussi.
D'accord.
Non, je crois que Canet est vraiment l'équipe peut-être la plus armée. Ça sera un match aussi qui s'annonce passionnant.
Coach, pour revenir à notre effectif, là, ces derniers matchs, il y avait quelques absents au niveau de l'attaque notamment. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'infirmerie ? Parce que mine de rien, ça change peut-être un petit peu la donne aussi pour
de février. Quand on entraîne une équipe de l'AFL, on est content d'être l'entraîneur d'abord. Et puis, on sait que si on peut être là et jouer les premières places, faire des bons parcours dans d'autres compétitions, c'est parce qu'on a un bon effectif. Donc, si on en est là, c'est qu'il y a la qualité. Ce que nous avons, c'est que l'équipe est composée d'un socle de 6-7 joueurs, je dirais entre 28 et 32 ans, qui constituent un petit peu la base de cette équipe, qui sont là depuis plusieurs années. Et puis, à côté de ça, il y a des joueurs intermédiaires comme Johan Robert, comme Ibrahim Boub, comme Issam Fadil, qui ont, on va dire, entre 24 et 26 ans. Et puis après, derrière, c'est la classe biberon, et c'est des jeunes qui, pour la plupart, sont passés par le col ou par les équipes de jeunes de l'AFL, et je salue au passage tous les éducateurs de l'AFL. Et aujourd'hui, oui, il y a quand même le petit plus, c'est quoi dans les matchs? C'est qu'on a, on le reconnaît, on a du talent offensif. Des garçons comme Gourma, c'est un talent offensif. Des garçons comme Rebolosso, c'est un talent offensif.
Et défensif.
Non, mais, et en même temps, j'en profite pour parler aussi d'un joueur qui a été souvent décrié, et je m'adresse aussi à lui directement parce que c'est un garçon que j'ai fait venir. C'est, donc Biram Ndiaye, qui malheureusement a terminé la saison. Et Biram Ndiaye, 21 ans, c'est un talent offensif. Sauf qu'aujourd'hui, ben, ces trois garçons, ils sont pas là. Alors Biram, c'est pour la fin de la saison. Il a malheureusement une rupture de ligaments croisés et également du latéral extérieur, externe. Donc ça, ce qui fait que ce garçon en a pour au moins 6 à 8 mois avant de pouvoir recourir. Rebolosso, mi-décembre, s'est fait une grosse entorse du genou. Donc on n'a pas de précision. On s'était dit aux alentours de mi-février, mais mi-février, est-ce que ça veut dire mi-février qu'il va pouvoir mettre des chaussures de foot, ou est-ce que ça veut dire qu'il va pouvoir faire le Rebolosso que l'on connaît? Et on sait que quand on s'arrête 2 mois, alors peut-être que Rebolosso c'est Iron Man, mais souvent il faut quand même au moins la moitié de la durée d'absence. Donc je l'aurai pas forcément dans ce mois de février. Gourma, il a fait un match à Luzenac exceptionnel. Il a été au-delà de ses qualités de remiseur, de passeur, de finisseur et dans la dernière passe, dans tout ce qu'on veut. Il a eu un volume de jeu. Il a peut-être payé en fin de match. Il a eu des crampes, et puis la semaine d'après, il y a eu cette petite gêne dès le mardi à l'entraînement. On l'a arrêté. Et puis, donc, il y avait ce match contre Toulouse. Et bien voilà, il était hyper motivé pour le jouer. Et à partir du moment où la séance de vendredi s'est bien passée, on a fait jouer Gourma. Et vous savez ce qui s'est passé. Voilà, 10 minutes de jeu. Et Gourma, déchirure. 2 centimètres. Donc là aussi, déchirure. Je ne suis pas médecin, mais il y a des protocoles de guérison. Il y a 3 semaines, 1 mois. Donc pareil, si vous faites le calcul, on ne va peut-être pas l'avoir à 100% pour le mois de février.
Voilà. C'est peut-être la chance de Julien Gall. Hein,
Donc la question qui s'impose, est-ce qu'on va avoir un joker au niveau offensif? On en parle, il y a des bruits. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce dossier chaud qui peut vraiment conditionner toute cette fin de saison?
Bah, ce que je peux vous dire, c'est que avant de parler de joker, c'est que tous les joueurs que j'ai de valides, je vais pas les mettre dans le formol, mais j'espère qu'ils vont être opérationnels jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il y en a assez avec les blessés. Mais effectivement, nous travaillons main dans la main avec les dirigeants pour essayer de d'étoffer le groupe et d'avoir un ou deux joueurs de plus. Mais bon, voilà, après, il y a la réalité du moment. Alors, on a jusqu'au 31, jusqu'à mercredi soir pour faire signer quelqu'un. Mais la donne est pas vraiment simple. Pourquoi? Parce que pour recruter quelqu'un maintenant, ou vous recrutez quelqu'un qui joue pas. Mais s'il joue pas, il vaut mieux quand même qu'il joue dans un niveau plus élevé. Mais à ce moment-là, il faut qu'il vienne ici pour essayer de faire un coup sur 6 mois. Ou alors, vous allez recruter quelqu'un qui vient d'en bas. Et le problème, c'est que quand vous voulez recruter quelqu'un qui vient en bas à mi-saison, les clubs aujourd'hui ont des freins pour bloquer les joueurs. Et donc, si vous ne faites pas signer un contrat fédéral, vous pouvez pas. Alors, il faut savoir que là, on va jouer contre Alès, par exemple. Alès a fait signer un joueur de 7, par exemple. Briançon, pour ne pas le citer, l'attaquant de 7, un très bon attaquant formé à Nîmes. Contrat fédéral. Donc là, c'est la solution. Mais contrat fédéral, ça veut dire coût aussi. Ça veut dire 1 000 euros, ça veut dire 6 000 euros sur les 6 mois, pratiquement. Ça veut dire 6 000 euros à sortir. C'est compliqué énorme, pour un joueur dont on ne sait pas si. Faut qu'il arrive, qu'il s'acclimate à la Lozère en cours d'année. Donc, on a plusieurs pistes, on a plusieurs profils. Je suis en discussion. J'ai mon téléphone près de moi parce que je sais que j'ai eu beaucoup de. Voilà, ça fait une semaine.
Coach, j'ai aimé aussi.
Non, mais sachez simplement qu'on y travaille, mais c'est pas la finalité. J'espère que mes blessés vont revenir. Après, il y a des jeunes aussi à l'interne qui ont fait des choses intéressantes. Le plus dur, c'est pas de faire ça. Ce qu'ils ont fait, je pense notamment aux jeunes Bakour et Barbu, qui ont été très bons lors des matchs où ils ont été appelés sur le déplacement à Luzenac et la venue de Toulouse. Mais est-ce que ça va durer? Voilà. Après, c'est eux aussi qui ont une partie des choses dans leur main, dans leur pied, comme on dit. Donc, il y a beaucoup d'inconnus, mais on est là. On n'a pas forcément la meilleure équipe, mais voilà, il y a beaucoup d'envie d'être performant. Et je le dis, les dirigeants trouvent des solutions, cherchent des solutions pour arriver à étoffer cet effectif, mais on peut pas faire n'importe quoi non plus.
Rappelons d'ailleurs qu'il y a déjà deux joueurs qui avaient signé à l'intersaison et qui sont déjà repartis pour diverses raisons. Le milieu de terrain Bicon et le défenseur Marin.
Et donc, qui n'ont pas été remplacés, oui.
Voilà, voilà. Et deux joueurs, bon, moi pour les avoir vus jouer, deux joueurs qui avaient largement le potentiel pour évoluer en 1-3. Donc ça fait deux joueurs de moins dans l'effectif. Donc c'est pas rien non plus.
Patrick, il met la pression pour que pendant le mercato, on trouve des joueurs supplémentaires. Si on t'avait dit en début de saison, à ce moment-là de la saison, te retrouver à 5 points du premier, voire à 2 points si tu gagnes ton match en retard, tu aurais signé de suite, j'imagine.
J'aurais signé, je ne sais pas, je ne signe pas ce genre de choses, moi, mais c'était un objectif qu'on s'était fixé. On s'était dit oui.
L'idée... Tu t'y attendais d'être classé aussi bien à ce moment-là?
Après, on va me taxer de Giroud, mais je sais que ça peut arriver. Non, mais moi, j'ai intégré que je suis en mode, quand je démarre une saison, que je peux très bien, parce que j'ai connu ça, me retrouver en décembre où on va lutter pour se maintenir. Et forcément, on a plus envie de se retrouver en décembre pour lutter pour monter ou pour finir vers les premières places. Mais il faut l'intégrer, ça. Si vous intégrez pas le fait que vous pouvez être... On est 14 au début. Si vous parlez avec 14 entraîneurs, on pourra pas faire une émission avec 48 FM avec les 14. Non. Mais sur les 14, il faut bien qu'il y en ait 3 qui soient derrière. Et dès la première journée, il y en a 3 qui sont dans les 3 derniers. Et personne veut y être. Et c'est pareil dans toutes les divisions. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'homogénéité de ce championnat, on se rend compte que, oui, on a envie d'être là, on est content. Allez, j'aurais signé. Je signe jamais, mais j'aurais signé. Voilà.
Je te parle de ce début de championnat. Quand au début de championnat, tu perds une partie de ton arête dorsale, tu perds ton avant-centre, Garbi qui était extrêmement important au milieu. Dans quel état d'esprit tu es? Tu te dis, je vais remplacer par des joueurs, je garde la même tactique, je garde la même disposition, je reste avec les joueurs que j'ai, je change peut-être mon positionnement. Comment tu es en début de saison?
Moi, ça fait quelques années que je fais ce métier et je peux vous dire que déjà, les deux joueurs que vous me citez, quand on démarre la saison, un, Garbi, on ne sait presque pas si on va le garder parce qu'il a fait une mauvaise saison, il est arrivé sans préparation, il avait un temps de jeu, au bout de 20 minutes, il était essoufflé. Et puis Diallo, il jouait en DHR, d'accord? Et on me disait, Diallo, il va aller là, mais personne ne l'avait pris finalement. Et puis donc c'était un joueur qui était en DHR et l'autre qui ne jouait pas. Ça veut dire qu'il y a eu du travail du coach et du staff. Hein, j'englobe aussi mon adjoint Brieux, le corvésier, qui au passage passe le diplôme de certificat des gardiens de but. Et puis, à côté de ça, les joueurs ont aussi bien bossé. Diallo, il n'a jamais manqué une séance d'entraînement. Garbi, je l'entraînais des fois le matin, il venait, il avait quitté son boulot. C'est des mecs, ils ont bossé comme des fous. Ça, personne ne le sait. Des fois, on me voyait au COS avec un ou deux joueurs un matin.
Non, mais c'est bien de le dire.
Yanis, moi, je le croisais le matin à 7h30 à midi, il faisait des footings, quoi.
Oui, complètement.
Ouais. Donc, c'est un mec volontaire, quoi.
Donc, il y a eu ce travail-là. Donc, après... Pour aller dans la question, on perd ces joueurs-là. Bah d'abord, on est content parce qu'on les perd pas. Ils vont plus haut. Il faut comprendre que voilà, le foot, il y a les petits, les gros, les machins. Et c'est à un moment donné, les clubs, c'est la vie du football. Elle est organisée comme ça. Moi, chaque fois qu'il y a un joueur que je jouerai avec moi et qui s'en va pour aller plus haut, mais je peux pas être déçu. Je peux pas être déçu parce que c'est là aussi la reconnaissance de mon travail. Et donc par rapport à ça, on cherche des solutions. On a essayé de faire au mieux possible. Mais après, il y a les finances du club. Aujourd'hui, que ce soit les instances politiques, que ce soit les dirigeants, tout ça, tout le monde veut essayer d'aller dans le sens pour améliorer. Mais c'est vrai que la réalité est compliquée parce que professionnellement, c'est dur d'attirer des gens parce qu'on n'a plus les emplois qu'il y avait il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, on est obligé de faire des coups. Donc vous allez prendre des joueurs qui sont soit dans des clubs qui ne jouent pas, soit des jeunes à fort potentiel. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, voilà, il y a un bon joueur là-bas, je le veux. Ça n'existe pas. Donc on est obligé de prendre. Donc on a des idées, voilà. Mais après, il faut que ça fonctionne.
Pour nos auditeurs, si on veut faire le point sur Diallo, bon, il a connu un échec retentissant à Granville, puisque ça s'est mal passé avec son coach. Mais là, depuis quelques mois, il a signé à Toulon. Et donc, allez sur Internet et regardez le match Martigues-Toulon. Et vous retrouverez le Diallo qu'on a connu, c'est-à-dire omniprésent dans la surface. Il marque un but de raccro, il provoque un pénalty. Et à la dernière seconde, Toulon gagne 3-2 à Martigues. Et donc, Toulon revient dans la course... pour la montée en national et avec d'autres clubs, c'est hyper serré dans ce pool.
Par contre, il serait resté à Granville, il jouerait un huitième de finale Coupe de France.
Ouais, mais bon, après, je pense qu'il a bien fait de partir parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, il était vraiment dans une impasse dans ce club normand.
On a demandé à Fadil il y a deux semaines, quand il était là, quelle était l'équipe qu'il avait le plus impressionné dans cette poule. Pour lui, c'était la réserve de Nîmes. C'est pareil pour toi, c'est la réserve de Nîmes? qui t'a le plus impressionné pour l'instant ou pas?
Moi, personne m'a impressionné.
Personne.
Mais ça a toujours été très difficile. Il n'y a pas eu un match. Peut-être un des matchs qu'on a où ça s'est plutôt bien passé, c'était Narbonne. Mais sinon, on ne peut pas dire qu'on a été impressionné par la qualité de jeu d'une équipe qui nous a jonglé. L'année dernière, j'ai été impressionné par Clermont. Clermont, ils nous ont jonglé. On a pris une leçon. À la fin, quand c'est comme ça, on va serrer la main du coach, on dit merci. Et on a vu, voilà. Là, j'ai pris une leçon de football l'année dernière contre Clermont. Mais là, aujourd'hui, personne nous a mis une leçon. Mais okay. Effectivement, Nîmes semble bien structuré, bien organisé. Ça sera l'adversaire. En fait, à domicile, ils sont intraitables. Ils ont parfois des difficultés à l'extérieur, Nîmes. C'est ce que je vois dans les championnats.
L'AFL n'est pas en reste à domicile. Depuis novembre dernier, vaincu.
Oui, l'an passé, on avait perdu trois fois en début de saison. De mémoire, on avait perdu contre les Corses de Borgo 3-2, puis Limonest également. Et on avait perdu en début novembre, je crois, contre Bourgoin-Jallieu. Et depuis, que ça dure, après.
On va voir ça dès ce week-end.
Oui, c'est ça.
Je pense que les clubs de ce championnat de N3 Occitanie, quand on leur pose la question, je pense qu'ils disent que c'est l'AFL qui les a impressionnés. Parce que on voit contre Montpellier, on se fait égaliser à la dernière seconde. Bon, tu bats Toulouse, c'est leur seule défaite depuis le début de la saison. Bon, tu fais 0-0 contre Canet. Certes, c'était le premier match. C'était compliqué de tirer des enseignements à ce moment-là. Mais voilà, l'AFL est là. L'AFL est un club maintenant qui fait parler, bien sûr, en Languedoc-Roussillon. Maintenant, c'est l'Occitanie, même ailleurs, puisque l'année dernière, on était Lyon et puis toute l'Auvergne. Donc voilà, l'AFL est reconnu, connu, fait parler de lui. Et donc, je pense qu'il y a des entraîneurs et des dirigeants qui doivent dire oui, l'équipe un peu à battre de ce championnat d'Occitanie, c'est aussi l'AFL. C'est peut-être l'AFL, je le dis.
L'équipe 2 qui devait jouer contre Beaucaire a vu son match reporté ce week-end en football.
C'est les 19.
C'est les U19. Ouais. Autant pour moi. La réserve ne jouait pas.
Non, il n'y avait rien.
Mais il n'y a pas eu beaucoup de foot. Il y a eu la coupe qu'adore Laurent, la coupe Laura Foot. Et après 2 mois de trêve, le Sporting Club Langonais se qualifie en 16e de finale après sa victoire à Brioude. 3-2, but Julien Malaval, Florian Almeras et Grégoire Gaudin. Pas d'autres infos en foot ce week-end.
Tous les matchs, la DDFL, le District Lozère, vous l'appelez comme vous voulez, mais tout était reporté, décision prise vendredi.
Moi, je voulais juste féliciter mes U15 pour ce week-end, parce qu'on a fait un challenge futsal qui s'est allé sur 3 semaines. Et donc hier, c'était la finale. Après avoir passé le premier tour, hier, c'était la finale. Et on avait fait le choix d'engager 2 équipes. Et la finale du challenge futsal, hier, c'était AFL 1, AFL 2. Donc ça a un peu fait parler dans les tribunes. Le gentil club lausérien qui s'invite en Aveyron et qui place 2 équipes en finale. Mais voilà, je voulais féliciter mes joueurs pour la bonne image du club qu'ils ont montré à l'extérieur. Et au-delà du résultat purement sportif, ils ont eu un comportement exemplaire. Et je pense qu'on a montré une très très belle image du club hier à Rignac. Voilà, c'était un petit mot sympa pour eux.
Tu fais bien de le dire. On va passer au volet maintenant, une fois n'est pas coutume. On va commencer par parler de la pré-nationale. Alors c'était le match choc du week-end avec l'équipe 2 du MVL qui se déplaçait à Gignac et qui perd 3-7-0, 25-20, 25-22, 25-22. L'équipe qui n'a jamais réussi à rentrer dans le match. Un non-match. Du coup, au classement, la montée s'éloigne vu que les 2 équipes de 7 ont également gagné. Ça nous donne Gignac 32, 7 30 avec un match de moins, 7 VC 29 et Mende à 28 points. Voilà, ça va être compliqué. Après, on ne sait pas parce que il peut y avoir plus d'une montée.
Ouais, c'est ce qui se dit. Samedi au Hand, il y avait pas mal de joueurs de volley et puis certaines personnes qui suivent le club. Et donc, c'est vrai que ils se disaient que parfois le 4e ou même le 5e est repêché. Bon, moi, ça me paraît surprenant, mais bon, pourquoi pas, on va voir.
L'équipe 1 a gagné dans un match sans enjeu à Charenton, dans le match au sommet Martigues et Tain-Fréjus 3-7-0. Alors du coup, on va regarder directement le classement pour les playoffs avec IAC 16 points qui est premier, Martigues deuxième 12 points mais avec un match en retard par rapport aux équipes qui vont se qualifier en playoffs. Fréjus 10 points qui a fait tous ses matchs, le MVL contre Martigues 8 points, match en retard. 5e Alluin 7 points, un match en retard donc qui colle le MVL. Et après on a Épinal 7 points qui a joué tous ses matchs, le CNVB 3 points et Amiens 3 points, match en retard. Patrick, ça ne nous arrange pas ce 3-7-0. Hein. On espérait un score un peu serré pour le partage des points. Mais...
On espérait un 3-2.
Pour Fréjus.
Ouais, ou au moins pour Martigues. Enfin bon, bref, on avait misé sur un 3-2. Et donc, ben, tu l'as dit au classement, on se rend compte de toute l'importance capitale de ce match samedi au Piencourt, donc juste après le foot, puisque le foot c'est à 18h30 contre Alès, et donc à 20h30, donc il y aura le MVL contre Martigues. Donc si on gagne 3-7-0 ou 3-7-1, on marque 3 points. Donc ça ferait, tu reviens à 1 point de Martigues et tu dépasses Fréjus. Donc là, tu reviens totalement dans la course pour cette deuxième place. Si tu perds 3-0 ou 3-1, ça fait 3 points pour Martigues. Donc ça ferait 15 pour Martigues, 16 pour Iac. Et toi, tu restes à 8. Donc c'est quasiment, ça serait quasiment terminé. Pour les deux premières places, voilà, c'est le match acquis tout double. On le supposait un peu depuis plusieurs semaines. Maintenant, on y est. Voilà, c'est vraiment l'heure de vérité pour le MVL samedi.
Sachant que Martigues est intraitable hein, ces derniers temps.
Oui, mais Martigues a perdu il n'y a pas si longtemps contre le SNVB 3-2. Donc,
c'était le match surprise. Ouais.
Voilà, c'était le match surprise.
Et là, c'était à domicile contre Fréjus.
C'était à domicile, c'était à Martigues. Bon, 3-0, victoire. C'est vrai que chez eux, ils sont vraiment intransigeants. Bon, espérons que le public fasse basculer la rencontre, mettre la pression sur les Provençaux et donc que ça permette au MVL de se libérer et de faire revoir son vrai visage. Parce que bon, quoi qu'on me dise, quoi que j'entende, moi pour moi, j'ai pas encore vu le vrai visage du MVL cette saison. Mmh. Bon, je mets la Coupe de France de côté, mais moi, pour moi, un championnat, on n'a pas vu encore le vrai visage de cette équipe.
Tu vas voir le volet un peu des fois, Yann ?
Oui, ça m'est arrivé. Moi, je préfère le hand, mais après, j'ai pu aller voir quelques matchs. Mmh.
On va parler du hand après, qui a reprise compliquée aussi. Hein. Vite fait, avant la pause musicale, pas de basket hein, au Réa.
Non, malheureusement, on n'a pas joué vendredi à cause des conditions climatiques. Pardon. Mmh. C'était déjà
un match. Qu'il y avait de la neige dans le gymnase. Ouais.
Ouais, c'est vrai. C'était déjà un match reporté. Alors voilà, c'est un match reporté qui a encore une fois été reporté. Mmh. Donc malheureusement, pas de match. Voilà. Mais basket ce vendredi, à domicile toujours. Vendredi soir à 21h contre Olemps, qui est troisième du championnat.
D'accord, ils annoncent de la neige encore vendredi. Hein. Faites attention.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, j'espère pas quand même.
On a marre.
Donc là, on attaque notre triptyque de matchs dont je parlais la semaine dernière contre les trois premiers du championnat. Donc un bloc de matchs hyper important pour nous. Donc je compte sur vous pour venir au lycée Chaptal vendredi à 21h.
Allez, avant de passer à la pause musicale, on va dire un mot sur le rugby. Encore un petit point d'écart qui est contre le leader, hein, l'avenir bleu et blanc, 18-17.
Si on veut clôturer, je reviens un peu sur le volet, mais bon, maintenant on connaît donc les quatre adversaires pour la deuxième phase. Donc
vas-y.
Tu l'as dit, mais il faut pour que tout le monde comprenne. Donc Saint-Jean-d'Illac, qui est un club de la banlieue bordelaise, qui apparaît un peu comme l'épouvantail de cette division élite. Donc un déplacement à Épinal, donc dans les Vosges, un déplacement à Luynes. Alors à Luynes, c'est à la frontière belge, donc là aussi il faut y aller. Et puis Amiens aussi, en Picardie, donc des gros déplacements lointains pour le MVL, mais sachant que la situation est claire maintenant, puisque il y a uniquement 4 clubs qui ont coché cette fameuse case administrative pour pouvoir accéder en Ligue B. Donc, Martigues et Fréjus, qu'on connaît bien, puisqu'ils étaient dans notre poule. Et puis, donc, de l'autre côté, il y a uniquement Saint-Jean-d'Illac. Donc, on rajoute bien sûr Mende. Et donc, sur ces quatre.
C'est pas bon, parce que sur les quatre, il y en a trois qui sont devant nous.
Sur ces quatre équipes, donc, on se rend compte que la lutte va être serrée. Alors, j'hésitais à le dire, mais je vais quand même le dire. Parce que ça commence à se répandre aussi. Il y a 15 jours, je suis descendu à Avignon et donc il y avait Avignon Orange en championnat de Ligue B. J'ai longuement discuté avec le président d'Avignon et donc il m'a confirmé ce que certains dirigeants mandois me disaient. Donc il y aurait une nouvelle réforme des compétitions au niveau de la fédération. Donc la Ligue A passerait à 14 pour sauver Toulouse. Toulouse qui fait la Ligue des Champions mais qui est dernier au classement et qui est quasiment condamné à la Ligue B. Donc pour sauver Toulouse, on passerait à 14. Donc ça entraînerait tout un tas dans les divisions qui suivent. Et donc pour l'élite, c'est là que ça nous intéresse. Le CNVB serait automatiquement promu en Ligue B. Mais au lieu d'y avoir deux autres montées, il y en aurait trois. Donc ce qui ferait quatre montées d'élite en Ligue B. Trois plus le CNVB. Donc la troisième place serait peut-être Là, on dit bien sûr un gros conditionnel, puisque
qualificative.
Voilà, parce que la fédération n'a absolument pas.
La fédération nous a niqué l'année dernière.
Voilà, mais peut-être qu'elle veut nous sauver.
Cette année, non, mais peut-être qu'elle veut passer à Vaseline.
Mais non, elle veut aider Toulouse.
Peut-être qu'elle veut nous sauver.
Faire le calcul, il m'aura des mal.
Donc, ce qui fait que sur les quatre clubs qu'on a cités, il y a.
Les enfants qui écoutent, là.
Il y a que.
Je leur fais un petit coucou, d'ailleurs.
Donc, sur les quatre clubs, Iac, Martigues, Fréjus et Mende, il y en aurait peut-être trois. Donc, qui accéderait en plus du CN, plus le CNVB.
Sauf qu'on est quatrième.
Voilà. Mais ouais. D'où encore plus important ce match contre Martigues.
Patrick, pourquoi le CNVB, ils prennent que des tôles en élite et on les fait monter en Pro B? Ça va être une catastrophe.
Cette année, le CNVB a gagné le droit sportivement de faire les playoffs, alors que les années précédentes, ils devaient faire les pédants. C'est un peu mieux. Et puis, bon, Johan l'a dit, et donc il a entièrement raison, il y a les JO à Paris en 2024, et donc on peut supposer qu'il y aura peut-être 2, 3, 4 joueurs de cette équipe actuelle du CNVB qui feront les Jeux Olympiques en 2024. Donc, okay, d'où l'intérêt de les faire jouer en Ligue B dès la saison prochaine.
Ok, ben voilà, au moins, c'est une bonne explication.
Ouais.
Bah allez, on va parler du rugby après la pause.
Difficile à accepter quand même. Enfin, je trouve. Enfin, c'est.
Non mais tu connais la fédération de volley, les règlements.
C'est foot, si on te dit, Johan, tu montes pas parce qu'il y a une équipe de DH qui va jouer un des deux.
Non mais complètement. C'est un peu de l'amateurisme en cours de saison en fait. Parce que si c'est dit en début de saison, ça passe très bien.
Ça passe un peu mieux.
Il y a une réforme, mais ça me paraît assez bizarre que à mi-saison. Alors tant mieux pour Mende et pour nous si on peut en profiter, mais c'est.
Mais Toulouse, pourquoi ils ont leur fait tant de manière à eux là?
Parce que cette année ils sont en Ligue des Champions, donc c'est vrai que dans le concert mondial, un club qui fait la Ligue des Champions et qui est rétrogradé en Ligue B, tu es quasiment la risée des autres championnats.
Et alors
les championnats italiens, le championnat polonais, qui sont des gros énormes championnats russes. Et donc voilà, vis-à-vis des dirigeants, pour eux c'est inconcevable qu'un club qui te représente en Ligue des Champions descende en Ligue B. La même saison quoi. Donc il y a ça je le dis en off, et aucun dirigeant qui te le dira ça. Moi je peux me le permettre de le dire parce que je suis journaliste, je suis pas dirigeant. Mais c'est tout ce qu'on entend, il suffit d'aller dans les salles de volley-ball et tu entendras ça, mais il y a aucun dirigeant qui va te le confirmer ça. Il va te dire ça en off, mais en on ils te le diront jamais. Bon, nous on peut se permettre de le dire. Et en tout cas, dans le volley, tout le monde parle que de ça, de cette réforme, de cette refonte des championnats. Je le répète, rien n'est officialisé, la fédération n'a pas encore officialisé, mais quand même, quand il y a un président d'Avignon qui te le dit, Mende aussi, ils ont déjà eu des bruits, donc un plus un, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit.
Je le répète, la venue de Julien Gall dans l'équipe 1 de l'FL n'est pas officialisée. Elle n'aura peut-être d'ailleurs jamais lieu.
Allez, il a déjà joué avec l'équipe 1.
Il a déjà joué en coupe.
Il dit je ne coûte pas 1 000 euros par mois.
C'est vrai. J'ai demandé d'être augmenté peut-être.
Ouais, mais tu marques moins de buts.
Par contre, coach, il passait le bonjour à ses enfants qui écoutent l'émission. Moi, je voulais passer aussi le bonjour à tous les élèves de 3e qui passent le brevet blanc aujourd'hui. Dans la mienne. Ah.
Et donc, elle n'entend pas l'émission.
Si, là, cette heure-ci, elle y est.
Moi, elles écoutent. Hein. Elles sont. Oui.
D'accord. Ouais. Allez, pause musicale, on revient de suite. Jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. Barely sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind cries. Traffic lights turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my
differently. It's shiny island, it's sex down the street. Cause the light that they leave there. And the wind screams Mary. It's old age, it's wisdom. Whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
Quand même plus, c'est normal parce que...
Allez, oui Laurent, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Non, non, rien, on faisait le point là, au niveau du volleyball et c'est vrai que le club a toutes ses chances de monter en deuxième division et c'est très bien.
En Pro B.
En Ligue B.
En Ligue B, B. Ça, on va y arriver.
La Pro B, c'était ouais. Le basket.
Ouais, c'est ça. Rugby, alors 18-17, moins 1 contre le leader, l'avenir non. Bleu et blanc.
Troisième. Ils étaient troisième avant.
Oui, mais maintenant ils sont leaders.
Oui, parce qu'il y a eu des matchs reportés. Ouais.
Ah. Non, non, ils ne sont toujours pas leaders. J'ai imprimé le résultat ce matin. Ils sont toujours troisième.
Ils sont toujours troisième
Pas sur le rugby que tu me racontes.
Là, on parle du rugby.
On parle du rugby, là.
Ah, pardon.
D'accord. Donc,
non, je ne vous ai pas écouté.
Allez, leaders, ils sont leaders, c'est tout.
Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé, Patrick ?
Il s'est passé un peu le scénario catastrophe qu'on voit depuis le début de la saison. Donc, troisième match. Et troisième défaite d'un point à domicile depuis le début de la saison, Pic Saint-Loup, Bédarieux et donc hier Capestan, puisque l'avenir bleu et blanc c'est Capestan. Et donc un scénario catastrophe une nouvelle fois, mais c'est compliqué de gagner un match quand il y a 18 joueurs sur la feuille de match. La semaine dernière, 17 pour le déplacement à Lunel, 17 dont le coach Eddie Nibili. Donc là cette fois 18. C'est compliqué de gagner des matchs et c'est vrai que ça se paye toujours en fin de match où l'équipe adverse fait la différence dans les 10 dernières minutes, c'est ce qui s'est passé. Et puis une nouvelle fois, c'est vrai, une décision de l'arbitre difficile à comprendre puisque tout le pack s'effondre 2 mètres après la ligne d'un but. Bon, l'arbitre n'accorde pas l'essai, bon, là, peut-être, mais il avait désigné une pénalité pour le RCML avec son bras. Et donc, il aurait dû revenir à la pénalité. C'est ce que tout le monde pensait. Ben, non seulement il n'est pas revenu, mais il a permis aux visiteurs, aux Héroltais de se dégager. Et donc, plus d'action pour Mande. Donc, c'est vrai, une décision incompréhensible et qui impacte fortement.
C'est la deuxième fois d'affilée.
C'est vrai qu'il y a 15 jours, on avait eu aussi un essai qui était vraiment marqué, mais qui avait été refusé pour une faute préalable. On avait donné pénalité pour Mande à ce moment-là. Donc, c'est vrai. Bon. Pas de réussite et un club en souffrance et un terrible manque d'effectifs et c'est ça qui plombe totalement la saison de cette équipe.
Et puis j'ai lu ton article Patrick sur le résumé du match, apparemment un bon match à l'ancienne aussi avec quelques généraux qui sont partis,
ah,
c'est
oui,
ça
oui, là au bout de 8 minutes il y a eu une mêlée alors tu connais bien le rugby par ton père, donc le demi de mêlée introduit et donc le ballon n'est pas talonné et le ballon ressort immédiatement de la mêlée et donc là les deux premières lignes se relèvent
Et voilà, bagarre générale, les packs, les arrières sont venus. Une bonne petite mêlée à l'ancienne. Et donc l'arbitre est resté, il a gardé son sang-froid. Il a mis un petit carton jaune à deux joueurs. Alors il les a pris au hasard, certainement. Un de chaque côté, mais bon, pas de carton rouge. Et puis bon... Et après, c'est reparti. Passe, et au bout de demi-heure, on en a vu une deuxième aussi qui est, ça partait bien. Donc, deux générales dans la première demi-heure. C'est vrai que, les anciens sont habitués à ça, mais c'est vrai que quand même là, depuis quelques années, bon, ben, on le voyait moins et là, c'est revenu et donc, oui, on était dans le match immédiatement, quoi.
Par contre, en parlant de ça, ils ont pas trop saccagé le terrain parce que samedi, il y en a quand même match avec les footeurs.
Franchement, le terrain était en bon état, il était un peu
avant le match,
certes, mais bon, non, je pense pas qu'il était trop dégradé.
Mmh. Et ouais, ça jouait avec les mains, pas avec les pieds.
Ouais, en fait.
C'est pour ça. Handball, tiens Laurent, on va rester avec toi. C'est la reprise pour l'équipe 1 du MGC, reprise qui s'est mal passée, défaite à domicile, 31 à 25.
Oui, alors très mal passé, on s'attendait à beaucoup mieux. Tous les observateurs ont vu que clairement il a manqué quelque chose à cette équipe pour pouvoir gagner le match. Et ce quelque chose, déjà, ça passe par une bonne préparation physique. Et je crois pas que tous les ingrédients étaient mis en place pour pouvoir gagner ce match. Donc c'est décevant parce qu'il y avait un coup à jouer pour se sentir un peu mieux au classement. Là, le club est huitième. Et ça, à savoir qu'il va y avoir deux déplacements. Les deux prochains matchs sont à l'extérieur contre des adversaires directs. Ce samedi à Fontaine, qui est dernier, mais a priori, la légende dit que c'est très compliqué d'aller gagner à Fontaine. Et le week-end suivant à Loriol, qui est juste un point derrière. Donc voilà. Non, un point.
Patrick, tu étais au match aussi ?
Oui, on y était avec Laurent. Et moi, je partage tout à fait ce que Laurent vient de dire. Beaucoup de déceptions hein, dans la façon dont ce match est perdu. Alors certes, cette équipe de René Rieux Ardèche était troisième au classement. Mais bon, c'est un promu. Hein, donc ils étaient en pré-national la saison dernière. Moi, j'ai vu une belle équipe.
Un promu qui a quand même de très bons éléments.
De très bons éléments, mais j'ai quand même pas vu une équipe inaccessible. Et moi, je trouve que on renonce quand même assez facilement. Et on s'aperçoit que le MGC, finalement, n'est pas invité dans ce championnat des équipes de tête. Et donc, maintenant, il faut regarder la descente. Hein. Donc, c'est comme l'année dernière. Donc, trois clubs qui vont être relégués. Donc on se rend compte que la situation est compliquée, plus que compliquée. Et comme tu le dis, Laurent, tu vas chez le dernier samedi. Donc attention.
Julien,
j'étais pas au match, mais quand on voit 12 à 11 à la mi-temps à peine et qu'on voit 31-25, c'est-à-dire 19 buts encaissés en deuxième mi-temps, c'est là qu'il y a eu problème, je pense.
Bah, déjà, pour être arrivé à 11... but en première mi-temps de marquer, il a fallu quand même. L'équipe avait mis que 6 buts en 25 minutes. Donc là, on se dit, là, ça va être très très compliqué. Puis bon, il y a eu un petit sursaut en fin de mi-temps. Mais c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, l'équipe adverse a fait rentrer un joueur qui s'appelle Fares Naï, qui a joué quand même en pro D2, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, à Valence.
En division
2. Un jeune joueur, tout frêle, un ailier, il est rentré. Bon, en première mi-temps, il mettait que les pénaux. Deuxième mi-temps, il s'est baladé. Et le problème, c'est qu'on l'a regardé, quoi. Un joueur, en plus, c'était pas une caisse à faire peur. Enfin, je veux dire, quand il te balade deux fois, le mec, la troisième fois, tu essaies d'intervenir. Et nous, on a été spectateurs de ce garçon, qui était très bien, c'était beau à voir. Mais voilà quoi. Il manquait de l'agressivité, je trouve, dans notre équipe. Et quoi qu'on puisse en dire, le handball est un sport de contact. Et donc voilà.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a vu plusieurs fois où le joueur tire, où il y a un arrêt du gardien, où il y a un poteau. Bon, alors certes, le ballon lui revient dessus, mais il peut encore tirer. Et même parfois, il y avait une troisième chance. Mmh.
Alors, sur un pénalty, Patrick parle d'une action sur un pénalty.
Le mec, il récupère le ballon, mais tu te jettes sur lui, quoi. Et puis, surtout s'il récupère une troisième fois ou si quelqu'un d'autre récupère une troisième fois. Donc, parfois, ils ont pu faire trois tirs d'affilée dans la même action. Bon, c'est vrai que c'est un peu, j'allais dire choquant, mais c'est vrai que ça interpelle, au moins ça interpelle. C'est dommage parce que Omar Baradji, qui est une des recrues de l'intersaison, qui a été souvent blessé en début, Là, moi, pour moi, j'ai vu un vrai joueur, un vrai bon joueur. Il a fait son match. Ben, Razvan Letu aussi, il a mis ses buts. Bon, il y a eu quelques décisions arbitrales aussi. Il faut le dire, Mande énormément sanctionné. Ben, 5 demi-minutes pour Mande et une seule 2 minutes pour l'adversaire. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand tu joues à domicile.
Et le alors, tout en deuxième période.
Voilà, il y a beaucoup de contestations, des 2 minutes qui sont prises sur des contestations. Donc c'est vrai que ça fait mal parce que l'adversaire creuse l'écart dans cette deuxième mi-temps. Bon, moi là aussi, je le répète, j'attends mieux de cette équipe. Je pense qu'on n'a pas encore vu leur vrai visage.
Alors, contrairement à l'an dernier où on a joué pour ne pas descendre jusqu'à la fin de saison, on est quand même dans le milieu du classement, plutôt bas, mais on est 7e ex aequo.
On est à un point du premier relégable.
Oui, oui, tout à fait.
Et oui, on y
va dans 15 jours.
Oui, mais on est 7e ex aequo avec 18 points, 9e Loriol 17, 10e Saint-Égrève 17.
Qui est le premier relégable.
Il faut regarder les points de ce championnat.
Et Fontaine, 12 points. Et devant nous, Annecy a que 20 points. Ils ont que 2 points de plus. C'est combien la victoire?
3, mais quand tu perds, tu marques un point.
Bon, bah donc on peut revenir 6e en un match. Et L'Oriol est dernier. Fontaine est dernier. On va à Fontaine.
Oui,
ça me dit pas à Fontaine. Ils ont gagné qu'un match. Ils ont 9 défaites. On va pas perdre quand même.
Eh bien, je le souhaite.
Espérons-le.
On le souhaite.
On va remonter là. Soyez positif. Ouais. La réserve perd aussi contre Aramon.
Non, mais on est positif, mais il faut prendre une conscience. Il faut que les joueurs prennent conscience qu'un match de handball, ça dure pas qu'une mi-temps et qu'il faut se préparer physiquement à pouvoir tenir un match entier.
Je suis d'accord.
Tu peux pas les prendre le matin là pour faire du footing
Alors, c'est vrai qu'on s'est fait un peu talisser par le président Rodier au début du match, hein, et donc il a dit ah oui, t'appelles la mauvaise foi, hein, donc on peut le dire. Bon, oui. Entre nous là, personne nous écoute, donc
hier après-midi, voilà. Je l'ai pas vu. J'étais au gymnase, moi.
Dès que tu arrives, il a dit bon, voilà le roi de l'émission, la mauvaise foi. Ouais. Mais bon, là, je dois dire que dans tout ce que tu as dit, il n'y avait aucune once de mauvaise foi, et je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit.
Bon, allez, très bien. La réserve perd 33-30 contre le leader Aramon et les féminines qui devaient jouer en levée de rideau, non?
Oui, contre Aramon.
Elles n'ont pas joué.
Contre Aramon, non. Aramon n'est pas venu, manque d'effectifs, donc les filles d'Aramon ne se sont pas déplacées.
D'accord. Très bien, allez messieurs, on va parler de sport national, international. On va commencer par le foot. On parlera du hand après. Tiens, les pronostics, allez. Directement, les pronostics. On est complètement dingue et on va pronostiquer sur un Monaco-Lyon qui se joue ce dimanche à 21h. Et c'est Aurélien qui va commencer parce qu'il a marqué un point. Il reste sur un bon résultat. Donc,
tout ça pour donner le même score que moi, quoi.
Non, parce que moi, je suis tellement nul que je vais laisser Johan parier pour moi.
Ah ouais.
Ah bah,
c'est
attends,
injuste.
Patrick, il a marqué 2 points.
C'est injuste.
Bah non.
Alors là, il a le stress.
Au pire, je marque pas de points. Donc. Et Patrick, il a marqué 2 points avec les filles du hand. Hein, je vous rappellerai.
C'est vrai.
Alors, vas-y, Auré.
Alors, Monaco-Lyon, je vais dire 1-2. Donc, victoire de Lyon, 2-1.
À Monaco. Ok. Allez, coach, pari pour moi.
Je dirais 1-0 pour Lyon.
Très bien, ça me va. Champion.
Alors, le problème, c'est que j'ai pas pu contacter Olas pour savoir si c'est lui qui allait désigner l'arbitre ou pas. Donc, ça peut changer mon pronostic, mais 1-1.
Ok.
Donc, c'est pas Monsieur Turpin l'arbitre. Donc,
c'est pas Chaperon.
3-2 pour Monaco.
3-2 pour Monaco.
Et pour rester avec mes 0 points, je vais dire 2-1 pour Monaco.
Très bien, mais je crois qu'on est pas mal avec ce 1-0 pour Lyon. Très bien, messieurs. Tiens, nouvelle recrue pour Monaco, justement. Pelligrip, encore 17 ans, 20 millions d'euros hors bonus, achat au Génois. On pète un boulard à Monaco ou c'est vraiment la future star et que c'était le moment ou jamais?
Il paraît qu'il est pas mal.
Il paraît qu'il est pas mal. C'est le nouveau Zlatan, donc il est présenté comme ça. Après, ça ne veut plus rien dire quand on voit les prix qu'il peut avoir, mais il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur le coup, c'est vrai. Et donc bon, c'est bien que Monaco l'ait eu, mais bon, c'est vrai que ça paraît cher. Mais après, si dans 5 ans ils le revendent 200, mais
oui,
c'est un petit peu la politique de Monaco aussi de parier sur des jeunes prometteurs et de les faire évoluer, de les revendre après.
Après là, pour un mineur, c'est vrai que ça devient
16 ans et quelqu'un.
Johan connaît mieux le milieu que moi, mais il faut quand même savoir que sur des gamins de 12, 13, 14 ou 15 ans. Alors, ça se dit ou ça se dit pas, ça se fait sous le manteau ou ça se fait tout à fait légalement, mais il y a certains clubs qui mettent déjà 1 million d'euros. Alors, ils donnent pas au gamin, puisque le gamin, il a 13, 14 ou 15 ans. Mais enfin, ils font un chèque de 1 million d'euros à la famille du gamin pour que le gamin, ben, ou à 13, 14 ou à 15, 16 ans, il rejoigne, ben, Manchester City ou Liverpool ou Dortmund ou le Bayern ou je sais
ou
pas.
Ou l'AFL.
Donc, on est déjà sur des sommes qui dépassent le million d'euros à 13, 14 ans.
Mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, là. Ça rejoint un peu le débat, quoi, sur les sommes qui étaient dans le foot, là. 20 millions pour un jeune de 17 ans, c'est sûr que c'est choquant, mais c'est la tendance actuelle, malheureusement, quoi.
Premier doublé en Serie A à 16 ans et quelqu'un.
Pour avoir un crack, entre guillemets, il faut mettre les sous, quoi. Ouais, mais ça, j'ai un peu regardé la fiche du joueur, là, et ouais, il a marqué un doublé, mais après, quand il jouait en U17, U19, il a jamais eu des stats incroyables, quoi.
Ah, alors, ça y est, on y arrive. Merci,
c'est pas
Julien.
Parce que, c'est pas parce qu'il a mis un doublé en Serie A, il a certainement du talent.
Comme Kylian Mbappé, avant de jouer en pro, son entraîneur des moins de 17 ans ne le faisait pas jouer.
Oui, mais
En équipe de France, d'ailleurs.
Il n'est pas passé, plus ou moins pas passé.
Il
a eu 17.
Là, voilà, c'est ça.
Le Pellegrini, là, à 16 ans.
Qui a reconnu son erreur.
U17, U19, il n'a pas eu des stats incroyables, quoi. Donc. Ce qui est surprenant aussi, c'est que c'est d'acheter ça pour remplacer Guido Carrillo, quoi, en fait. Ils ont vendu Guido Carrillo 22 millions, ça on s'en donne. C'est pareil, Guido Carrillo 22 millions, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait à Monaco pour le vendre 22 millions?
Je sais
même
pas qui c'est, Guido Carrillo.
Donc,
Il a déjà joué à Monaco.
Oui, pareil, on peut dire qu'il a été acheté parce qu'il a mis un doublé contre 3, là, avant la trêve. Mm. C'est pareil. 22 millions pour Carrillo. C'est presque plus choquant que 20 millions pour Pellegrini.
Oui.
Ouais, je sais pas.
Non, Carrillo, c'est un bon joueur.
On en parlera, c'est un attaquant. Après, c'est à jouer en Angleterre. Après, bon.
C'est les prix, quoi.
Ouais, c'est les prix anglais. Mais c'est des attaquants. Carrillo, il est sous-coté parce qu'il est à Monaco. Il y a Falcao, donc on peut pas jouer. Il peut pas jouer forcément aux côtés de Falcao. Mais Carrillo, dans beaucoup d'équipes de Ligue 1, il aurait eu une autre vision.
Je pense que les Anglais,
ils sont prêts à mettre 20 millions. Oui, mais Marseille a pris Mitroglou.
25 millions.
Pas moins que Mitroglou.
Tiens, on va en parler, Patrick. 25 millions pour Mitroglou.
Alors Mitroglou, si
on le revend 200 millions.
Mitroglou, quand il est rentré, il s'est fait moquer par
les
commentateurs de Canal Plus. Et on dit ça y est, c'est la chance de Mitroglou, c'est le dernier corner, on joue à 93e, il va mettre sa tête.
Imaginez la belle histoire, ils ont dit.
Non mais pendant 10 secondes, je me suis dit mais s'ils avaient raison, c'est ça m'a fait douter. Et puis bon, quand j'ai vu le ballon dans les mains de Subasic, je me suis contenté de ce match nul.
Qu'avec un meilleur centreur que Payet, peut-être qu'il aurait pu marquer Mitroglou.
Pas très bon Payet hier. Hein.
Non.
Tauvin très bon là, ouais. Ça y est.
Non mais à Marseille, je vais vous dire, il faut un deuxième Tauvin, un deuxième Luis Gustavo, un deuxième Rami et après voilà.
Et un deuxième Sakai.
Et non, Sakai là.
Il y a Bounassar.
C'est vrai qu'il y a Bounassar.
Et Bounassar avait 20 millions d'euros aussi à l'Angleterre.
Il est pour Leicester, ouais. Claude Puel est tombé sous le charme de Bounassar.
Ouais, mais ça, il faut le vendre 20 millions là à Leicester.
Au Campos, 20 millions. On va le vendre aussi.
Ouais, ça aussi, il faut le vendre. Sur le match d'hier, beau match,
oui.
Messieurs.
Belle intensité. Hein.
Belle intensité, ouais.
Un match vraiment de belles équipes. Bon, Marseille a eu plus d'occasions, mais le résultat est logique parce qu'il y a eu ce but refusé pour Monaco. Pour un hors-jeu quand même flagrant. Moi, je dis bravo l'arbitre.
Flagrant du lacet, ouais.
Non, il était pas hors-jeu de 3 mètres, pardon. Excusez-moi.
S'il n'y avait pas eu hors-jeu, j'aurais marqué un point.
Et l'arbitre dans son oreillette, il a entendu Julien Gall a parié 3-2 pour Monaco, il a fait hors-jeu.
C'est vrai qu'on a vu un joli match. C'est quand même. D'abord, un duel entre Sidi B et Tauvin, magnifique.
C'était le match du week-end parce qu'après, c'était pas exceptionnel. Hein. À part le Metz-Nice 2-1 pour Metz.
Je l'attendais.
On n'a pas vu grand-chose.
On a relancé Nolan Rowe, c'est terrible.
Johan, Paris, il passe contre Madrid ?
Moi, je dirais que non, mais après, je leur souhaite de passer, mais je pense que le Real Madrid, c'est une bête blessée en ce moment. Et après, faudra voir les forces en présence. Voilà. Est-ce que le Real sera au complet ? Ça va être une double confrontation vraiment passionnante aussi, mais je mise sur le Real.
Est-ce que Neymar aura mal au dos ? On ne sait pas.
Oui, mais il y a l'Astana Diarra quand même.
Ouais, mais ça, on pourrait en faire un débat sur l'Astana Diarra. Est-ce que c'est un bon choix? Parce que Lo Celso est bon en ce moment quand même. C'est étrange de prendre.
Mais
quand Mota va revenir, Mota va être titulaire.
Ça vaut pas un Diarra en forme en tout cas.
Un Diarra, il sera
est-ce qu'il est en forme?
C'est pas le même profil de joueur.
Il sera en forme dans 4 mois, Diarra.
Non, c'est pas dit, il s'entraînait. Il s'entraînait.
Mais une semaine.
Qui c'est qui a dit que le Real passait chez nous? C'est toi, Laurent?
Aussi. Tu dis ça ?
Ouais, je crois, non ?
Je ne me rappelle plus. Ouais. Mais c'est possible. Le Real a quand même je sais pas combien de Ligue des Champions, enfin un gros palmarès, X fois champion, des joueurs n'en parlons pas, un coach non plus. Donc pour moi, le Real est quand même favori, c'est évident quoi. Même si il y a eu quelques ratés, je vous garantis qu'en Ligue des Champions, ils y seront les mecs.
Tu vois qui gagner cette Ligue des Champions, Johan? City, Barcelone, il y a toujours les mêmes gros clubs qu'on va retrouver. Enfin, City nouveau, parce qu'il ne passait pas les demi jusqu'à présent. Mais...
Ouais, c'est vrai. Mais je crois que pour l'histoire du foot, si Guardiola arrivait à gagner la Ligue des Champions avec City, ça serait vraiment quelque chose de fantastique. Après, je ne suis pas trop supporter, donc j'aimerais juste que l'équipe qui va gagner, elle le mérite et qu'elle monte des choses sur le jeu. Parce qu'il y a des fois des années où l'équipe va en finale, le parcours n'est pas bon. Là, on va voir, tout va se... Pourquoi pas? Parce que le Real Madrid, c'est une bête blessée. Ils ont beaucoup d'orgueil, les joueurs de cette équipe-là. Et personne n'a fait depuis très longtemps 3 victoires consécutives en Ligue des Champions. Il y a un truc énorme. Je parle même pas de prime de match, là. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Je crois peut-être que Patrick, l'historien du football, ça a été fait dans le Bayern, l'a fait?
Deux.
Trois Ligues des Champions d'affilée. Non. Bon, avant, c'était pas la même compétition, en parlant de la Ligue des Champions, parce qu'avant, c'était la Coupe d'Europe des clubs champions.
Non.
Mais,
trois fois d'affilée, non.
Trois fois, je crois pas.
Non.
Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est vrai que le match aller va être déterminant. Ça va se passer à Madrid. Et je pense que le Madrid vraiment au complet, avec Bale qui revient, la faiblesse des latéraux à Paris me fait penser que, en Ligue des Champions, il y a quand même une faille. Après, on sait qu'à tout moment, Paris a quand même des atouts.
En plus, vraiment, Madrid a dû quand même regarder les matchs du PSG et voir que quand ils sont un petit peu bousculés, les joueurs parisiens, ils sont pas trop au rendez-vous, quoi. Et je vais vous dire que les Sergio Ramos,
les Casemiro,
ils vont y mettre le pied, ils vont les bouger.
Non, Paris va passer. Et ça risque de... Vous voulez, mais Paris va passer. Je l'ai dit depuis le début, donc Paris va passer.
Je suis parisien.
À Coupe d'Europe, je suis parisien. Voilà, c'est tout.
Ton discours a un peu changé, quand même. La semaine dernière, c'était on va passer. Là, c'est Paris va passer.
Non, mais parce que bon, je vais pas trop contredire le coach, puisqu'il a dit que rien n'allait passer, mais.
Non, mais je suis pas supporter, donc si le Paris, Germain fait le match qu'il faut mais l'année dernière ils avaient fait le match qu'il faut, mais sauf que comme toi Laurent tu disais qu'au handball il y avait un match c'était demi-temps, mais en Ligue des Champions aussi c'est pas demi-temps mais c'est deux matchs, donc avec l'expérience de Barcelone l'an passé,
non, mais pour tout,
ça va les aider cette expérience
pour tout dire
t'imagines le match retour à Paris si ça s'est pas bien passé à l'année, les joueurs aussi auront une pression énorme. Et non, je crois qu'en fait, le Madrid est en train de faire une opération, pas de déstabilisation, mais on voit la presse, ce qui se passe autour de Neymar, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais les deux équipes sont complets.
D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Paris avec Skiri contre Montpellier, là,
pour tout dire à nos auditeurs, moi, j'étais pas trop concentré il y a quelques minutes parce que je regardais du coin de l'œil le portable du coach et donc j'ai vu qu'il était sur une télé avec une vidéo, donc ça doit être les buts de notre futur attaquant de l'AFL. Donc, j'écoutais pas trop ce qu'il disait parce que j'essayais de voir quel était ce joueur, mais bon, non, le film n'est pas encore débuté, mais en tout cas.
Il n'y a pas de scoop. Il a annoncé déjà un scoop avec 4 montées au volet, on voyait doucement sur les scoops.
Allez, c'est bientôt la fin. Laurent va nous donner le 5 titulaires, donne pas les clubs, juste les noms à l'ouest pour le All-Star Game.
Ah, alors du coup, à l'ouest, on a Stephen Curry évidemment.
Ouais.
On a Demar DeRozan de Toronto.
Très bien.
Joel Embiid de Philadelphie.
Ouais, le futur Parisien.
Et on l'attend, le grec. Alors vas-y.
Giannis Antetokounmpo.
Bien.
Et bien sûr, James Harden.
Ok.
Bon. Et alors, on peut parler de.
Allez, donne-nous l'est.
Il y a un Français.
Il y a LeBron James. Il y a un Français. Il s'appelle Kevin Durant. Il y a Anthony Davis. Il y a Kyrie Irving.
Et un cinquième, on ne sait pas parce qu'ils ont eu un blessé, donc on ne sait pas qui va le remplacer.
Kuzins qui a été blessé, effectivement.
Tendant d'Achille. Bim.
C'est Paul George qui le remplace. Mais est-ce qu'il sera titulaire ou pas
Boy George. Je ne sais pas. Boy George.
On connaissait Boy George.
Ouais, c'est un peu. Attention dans les vestiaires, hein, je vous dis pas.
Ouais. Voilà, ben merci Laurence.
Sur cette blague, vous n'êtes
pas. Allez, Yohann Febrer, merci. Bon match ce week-end.
Merci. Juste un truc pour vos pronostics, là, parce que je vois qu'il est devant. Ouais. Pourquoi vous ne mettrez pas un score doublé, par exemple, pour étoffer un petit peu avec le match de l'AFL chaque fois et qui voudrait 2 points, par exemple.
Ah, bon.
passe.
Ah, ah, c'est mal, pour vous pimenter un petit peu.
Il faudrait qu'on le fasse là. Il faudrait qu'on, qu'on fasse.
Ah, comme ça, je serais vraiment.
On a le temps, Ludo. On a le temps.
Ouais, mais allez,
allez, vas-y, on le fait.
Le problème, c'est trois pour la FL. La moitié du village. Si jamais un jour on dit défaite de la FL, quoi.
Du coup, c'est un pronostic.
Ludo,
3-1 pour la FL.
Est-ce que tu laisses le coach parier ou pas pour toi, du coup?
Je peux pas te laisser parier pour moi. Non, non, ça serait trop facile. 3-1 pour la FL.
Oui,
contre l'AS. Il y a pas d'attaque à la FL ce week-end. Ils ont pas d'attaque.
Beaucoup de blessés.
Ici, Barbu, Camisulis, tout ça. Camisulis, c'est le nouveau Brassac.
Allez,
j'espère qu'il vous l'annonce. Pas parce que déjà qu'il a un melon.
Je vous l'annonce. Je vous l'annonce.
Allez,
Paul Camisulis, c'est le nouveau Jérémy Brassac.
3-1 pour la FL. Vas-y, Auré.
1-0 pour la FL.
Ok. Petit jeu là, on marque un but. Vas-y. Julien.
2-0 à FL.
2-0 à FL. Ok. Toi, je te suis pas de toute façon.
Laurent. Alors moi, j'ai bien écouté les analyses de cette émission. La FL a trois stars blessées en attaque. Alès est notre chat noir. Donc je dis 0-0.
Ok.
En espérant une victoire de la FL, bien sûr.
Oui.
Non, non, mais c'est évident. Je souhaite une victoire. Mais bon, voilà.
Allez, le 2-1 comme Toulouse. Allez, c'est bien. 2-1. C'est pas mal.
Bon, et le coach.
Et le coach, alors combien?
Non, moi, 1-0, ça mériterait bien. Hein, je vous le dis.
Ok.
1-0, il a dit. Bon, ok.
Bon, ben on verra ça. Allez, c'est une bonne idée, on va faire ça maintenant à chaque match. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, coach. Bonne fin de saison pour la FL et on se retrouve la semaine prochaine. On essaiera d'avoir Constant, tiens, après ce match ultra important contre Martigues, ça serait pas mal.
Ouais.
Ciao, les gars, merci.
Bye bye.
Salut.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Leslie John au couloir numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Vous êtes dit apéro ?
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro ?
Allez Louis !
Allez mon petit bonhomme.